France Inter, le 18-20.
La liste des sujets qui intéressent notre invité ce soir et qui vous intéressent parce qu'on les a vus passer tout au long de ces dernières semaines et ces derniers jours. Même cette liste est longue comme un inventaire à l'après-verre. On parle de vous, votre santé, mais pas seulement de soins, mais aussi de ce que doit être l'hôpital. Pas seulement de l'hôpital, mais aussi de l'accès aux soins, donc aux médecins. On parle aussi de nos choix de société, de ce que nous avons envie de transmettre, ce que doit être notre pays qui a fonctionné jusque-là sur la répartition, par exemple, qui s'interroge aujourd'hui sur les aides sociales. Alors, pêle-mêle pour la ministre de la Santé qui est notre invitée ce soir. Pêle-mêle, ça veut dire état de l'hôpital, EHPAD, bioéthique, PMA, homéopathie, reste à charge, cannabis, thérapeutique ou pas, lévothyrox, vaccin, urgence, déserts médicaux. Tout est ouvert et c'est à vous de jouer. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Allez Guy, c'est vous qui ouvrez le bal. Vous nous appelez de Lyon et soyez le bienvenu.
Merci. Félicitations tout de suite pour votre émission qui est remarquable. Ma question, je suis un ancien médecin retraité et j'ai travaillé un peu à l'hôpital et en ville. Je voudrais demander à Madame Buzyn si, pour désengorger les urgences d'une grande ville comme Sens, qui est l'heure d'attente à peu près 3-4 heures, ils ont organisé un tour de garde au sein des urgences avec les médecins retraités qui font donc office de généralistes, qui traitent la bobologie qui encombre, mais alors terriblement, les urgences des pays, des hôpitaux mettons, comme la ville de Sens. Donc ça a été créé, c'est une bonne chose. Et la deuxième que je voudrais lui demander, si de compte un jour remettre au goût du jour les hôpitaux locaux que nous avions créés en 70 ici à Villeneuve, dans une petite ville de 5000 habitants, avec les médecins du libéraux, on faisait tourner, disons, la médecine, un peu de maternité, on l'a fermée pour cause de danger, et ensuite la gériatrie. Voilà mes questions.
Eh bien écoutez, comme ça c'est clair, merci beaucoup Guy et bonsoir Agnès Buzyn.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans ce téléphone sonne. On a une multitude de questions pour vous, certaines un peu longues, un peu complexes, on y viendra, d'autres auxquelles vous pourrez répondre assez simplement. Et bonsoir à vous Daniel Messager.
Bonsoir.
Aussi autour de la table ce soir. Alors pour répondre à Guy, Agnès Buzyn, première chose, un tour de garde des retraités aux urgences, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Oui, c'est une très bonne idée. En fait, Guy pointe exactement le problème des urgences aujourd'hui, qui est le réceptacle en fait de toute la demande médicale qui n'est pas assouvie par la médecine de ville, qui dans certains endroits est difficile d'accès parce qu'on manque de médecins. Et donc, d'abord, on a cette année favorisé le travail des médecins généralistes retraités qui souhaitent prolonger leur activité. On a augmenté de 4 fois le plafond du cumul emploi-retraite, ce qui permet aux retraités qui souhaitent continuer à exercer 2-3 ans supplémentaires de le faire. Et puis, clairement, pour désengorger les urgences aujourd'hui, il faut que les personnes accèdent à ce qu'on appelle les soins non programmés. Et aujourd'hui, c'est une difficulté. Et beaucoup d'hôpitaux locaux se contractualisent soit avec des maisons médicales, soit avec des médecins retraités comme à Sens, pour essayer d'avoir un tri préalable pour que les urgences soient des vraies urgences vitales qui aboutissent à être vues par des urgentistes et que toute la bobologie, les renouvellements d'ordonnances et des choses comme ça puissent être faites par des médecins généralistes. Évidemment, c'est une solution.
Mais du coup, la question qu'on a envie de poser derrière, c'est comment se fait-il qu'on en soit encore aujourd'hui à aller aux urgences pour de la bobologie alors qu'on n'est pas censé aller aux urgences pour ce genre de choses en fait ?
Moi, je pense qu'il y a 3 raisons. La première, c'est des difficultés d'accéder à un médecin généraliste dans certains endroits où clairement il y a des déserts médicaux et donc la seule porte ouverte, c'est celle des urgences. La deuxième, pour certaines familles, c'est que à l'hôpital, notamment public, il n'y a pas du tout de reste à charge et donc il n'y a pas d'avance de frais à faire, alors que quand on va chez un médecin, pour l'instant, comme le tiers payant n'est pas généralisé partout, de temps en temps, il faut avancer 9 euros, 10 euros. Et puis, je pense qu'il y a un problème culturel. C'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins l'idée d'attendre pour avoir un diagnostic par rapport à une angoisse médicale. Et c'est vrai qu'aux urgences, on va avoir à la fois un médecin généraliste, un spécialiste, éventuellement un chirurgien, une radio, un examen biologique, le tout en quelques heures. Alors que si on va voir son médecin traitant, ben peut-être qu'il va prescrire une radio, qu'on l'aura dans 3 jours. Et donc, il y a ce besoin d'immédiateté auxquelles répondent les urgences. Et là, je pense qu'il va falloir que collectivement, on soit raisonnable. Quand ça n'est pas une urgence vitale, il faut éviter d'aller aux urgences.
Et on peut attendre effectivement 3 jours. Daniel Messager.
Alors, deux petites questions. Guy parlait par exemple de ces hôpitaux de proximité qu'il avait montés, qu'il avait contribué à créer. Il y a deux directions différentes qui semblent s'orienter. D'une part, on a l'impression qu'on ferme. Enfin, on n'a pas l'impression. Il y a des petits hôpitaux qui sont regroupés dans de plus grands hôpitaux, voire qui ferment, qui sont transformés en soins de retraite, par exemple, ou des maternités. Et d'autre part, il y a un rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie qui propose de multiplier ces hôpitaux de proximité, justement pour décharger les urgences. Alors, comment on peut aller, d'une part, dans ces deux directions différentes? Et d'autre part, il y a aussi des médecins qui prônent des centres de premier recours, c'est-à-dire des centres qui seraient installés à l'hôpital ou vraiment très à proximité, dans lesquels pourraient se rendre les patients, mais qui n'iraient pas, là aussi, engorger les urgences. Est-ce que tout ça, ça fait partie des solutions que vous envisagez?
Complètement. Aujourd'hui, nous travaillons sur une transformation de notre système de santé, notamment pour répondre à la question des déserts médicaux, mais pas seulement. Et la question de l'offre de proximité est prioritaire dans la transformation que nous allons faire. Et on voit bien que l'offre de premier recours doit être rapprochée des usagers et des patients. Donc l'idée n'est certainement pas de fermer des hôpitaux de proximité. Par contre, ce qu'on ne va pas pouvoir garantir, c'est de faire de la médecine de haute technicité partout. Et donc c'est ce qu'on appelle la gradation des soins. Il y aura certainement des hôpitaux avec des plateaux techniques un peu compliqués à qui on adressera des patients, et des hôpitaux de proximité où il y aura une offre de premier recours auquel les patients pourront se référer. Donc on va organiser les territoires avec une offre de proximité, c'est évident. Maintenant, sous quelle forme nous sommes en train d'y travailler, les annonces seront faites dans le courant de l'été.
Vous parliez de déserts médicaux tout à l'heure, Agnès Buzyn. Justement, c'est le sens de la question de Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir France Inter.
On vous écoute,
bonsoir
Pierre.
Madame la Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Voilà, ma question est simple et vient en prolongement de ce qui vient d'être dit. Le moment n'est-il pas venu d'imposer, je dis bien d'imposer et non pas d'inciter simplement, l'installation de médecins, aussi bien dans le service public, dans sa pratique hospitalière, que dans le privé, dans les zones défavorisées, dans les déserts médicaux? Je précise que je suis médecin. Je précise que nous savons tous qu'il y a de nombreux médecins dans l'Assemblée nationale, dans tous les partis, et que j'attends de vous, si vous le voulez bien, avec tout le respect que je vous dois, une réponse sans langue de bois. Merci.
Voilà, vous êtes prévenue, Agnès Buzyn. Donc,
oui, j'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Pas
peut-on
du tout
imposer à des médecins, un jeune médecin, de s'installer là où les déserts médicaux sont les
Alors,
plus criants?
Sincèrement et sans faire de langue de bois du tout, moi je pense que ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que la profession médicale aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, est une profession en tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé assez de médecins dans les années 95-2000, et donc on paye aujourd'hui le prix de cette démographie qui est plutôt en baisse pour les généralistes et stabilisée pour les spécialistes, mais surtout les médecins ont tendance à un peu moins travailler en temps médical qu'auparavant, parce qu'ils veulent mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Donc on est face à ce qu'on appelle une profession en tension, et tous les exemples montrent qu'on arrive à réguler par la coercition, en obligeant les gens dans les professions dans lesquelles il y a pléthore de professionnels. Donc ça a été le cas pour certaines professions de santé.
Et ouvrir le numerus clausus.
Et alors, juste avant de parler du numerus clausus, en fait, dans les professions en tension, ça a été essayé en Allemagne et au Canada, ça a été un fiasco, parce qu'en fait, les médecins se sont installés juste à la limite des zones sous-dotées. Ils n'ont pas été dans les zones rurales.
Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas déménagé. Ça veut dire qu'ils travaillent moins pour rejoindre leur famille, c'est ça que ça veut dire?
Voilà. Okay. Et d'autre part, ils ont préféré des postes salariés, soit de médecins du travail, soit de médecins dans l'industrie. Et donc, en fait, quand il y a tellement de postes vacants, la coercition ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des organisations où, en fait, on projette du temps médical, on va envoyer des médecins, mais qui n'auront pas forcément besoin de dormir en zone rurale, mais on va envoyer des médecins travailler dans les déserts médicaux, un jour, deux jours, trois jours par semaine, et favoriser des organisations où tout ne repose pas sur le médecin. Parce qu'en fait, pour les maladies chroniques, on voit bien qu'un certain nombre d'actes et de suivi de maladies chroniques pourraient être faits par d'autres professionnels, et ça nécessite des organisations bien réfléchies en amont.
Daniel. Alors, il n'y aura pas de coercition, pas d'obligation, vous ne le ferez pas, aucun ministre de la Santé ne l'a fait. Et on entend vos arguments que si on oblige les gens, ça ne marchera pas pour autant. Mais est-ce que ce que vous souhaitez mettre en place, qui est déjà en place depuis quelques temps, à savoir l'incitation, parce qu'il y a des mesures d'incitation pour que des médecins s'installent dans des zones sous-dotées, est-ce que ça fonctionne? On n'a pas quand même le sentiment qu'ils se précipitent vraiment
non,
vers
mais là, je
ces
pense
aides
que en fait, je pense que l'incitation, c'est-à-dire qui était la voie qui avait été choisie auparavant, où on donnait des aides financières aux gens pour qu'ils aillent s'installer en zone sous-dotée, en fait, ça a créé un effet d'aubaine. On voit bien des médecins qui viennent pour 1 an, 2 ans et qui repartent. Et donc, ça ne fixe pas les gens. En fait, il faut donner envie aux médecins d'aller travailler en zone rurale, en les formant en zone rurale. Et donc, on est en train de développer tout un tas de lieux de stage pour les externes et les internes en formation, pour qu'ils découvrent l'exercice libéral en zone rurale. On crée des centres de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que de moins en moins de jeunes médecins ont envie d'un exercice libéral isolé. Ils ont envie de se regrouper. Et surtout, on crée des organisations où le suivi des personnes repose autant sur du temps paramédical que médical. Et là aussi, il faut que les Français culturellement comprennent que quand on a un diabète, par exemple, on n'a pas forcément besoin de voir un médecin tous les mois. On peut être suivi par une infirmière qui va regarder la glycémie ou qui va regarder le pied. Et donc, si on organise bien le suivi des pathologies chroniques, on pourra dégager du temps médical. Et puis, il y a des choses que les médecins n'ont pas à faire, qui peuvent être faites par d'autres. C'est ce qu'on est en train de faire pour la vaccination. Aujourd'hui, on est obligé d'aller voir son médecin pour être vacciné ou une infirmière sur prescription médicale. On est en train de développer la vaccination chez le pharmacien. Ça fonctionne très bien. Ça libère du temps de médecins généralistes pour faire autre chose.
Alors, comme il y a beaucoup d'appels au 01 45 24 7000, je veux vraiment qu'on vous écoute. Et c'est vous, Gisèle, qui prenez la parole. Bonsoir, Gisèle, allez-y.
Bonsoir. Bonsoir,
bonsoir madame.
Bonsoir tout le monde. Moi, ça fait 25 ans que je travaille en EHPAD. Et je voulais savoir vraiment concrètement ce que vous allez faire, parce que le personnel est de plus en plus en souffrance et les personnes âgées deviennent de plus en plus en danger par manque de temps que nous avons. Concrètement, qu'allez-vous faire?
Merci Gisèle pour cette question qui revient beaucoup dans les questions au téléphone sonne. Agnès Buzyn, on a eu l'occasion d'en faire même des téléphones sonne sur les EHPAD et la manière dont les gens étaient à la fois traités, ceux qui travaillent et ceux qui sont à l'intérieur. Alors très vite, en gros, ce que ça veut dire, c'est embaucher plus quand? C'est ça le sens de la question, Gisèle.
D'abord, je vais vous dire mon étonnement quand je suis arrivée au ministère, parce qu'effectivement, j'ai vu arriver, entre guillemets, la crise des EHPAD l'été dernier, et je me suis rendu compte que assez peu de choses ont été faites face à une réalité qui est que les EHPAD ont été construits au début des années 2000 pour être des maisons de retraite et qu'en réalité aujourd'hui l'âge médian d'arriver à l'EHPAD c'est 85 voire 87 ans et que les gens y restent très peu et ils sont plutôt en fin de vie. Et donc en fait cette surcharge de travail n'a pas été anticipée. Donc j'ai pris un certain nombre de décisions au moins pour couvrir les 2 ans qui viennent. J'ai considérablement accéléré l'attribution de budget alloué à la partie des soins pour recruter des infirmières et des aides-soignantes. Il y avait un budget qui était alloué pour une période de 7 ans, je l'ai ramené à 3 ans, ce qui veut dire que dans les 3 ans qui viennent, il va y avoir plusieurs centaines de millions d'euros, 360 millions d'euros, alloués pour créer des postes d'infirmiers et d'aides-soignantes. J'ai rajouté un budget pour que tous les EHPAD aient une infirmière de nuit, soit mutualisée, soit seule, si jamais l'EHPAD est de taille suffisante, pour calmer, je dirais, l'anxiété des personnels qui travaillent la nuit dans les EHPAD et permettre d'éviter des hospitalisations inutiles. Tous les EHPAD vont être également équipés en télémédecine. On va mettre un budget également pour l'investissement mobilier. Et ça, les ARS vont avoir un budget dédié. On va également les agences régionales de santé vont avoir un budget dédié là dès cette année pour aider les EHPAD soit à se restructurer, soit à investir. On va mettre de l'argent, 30 millions d'euros dès l'année prochaine, enfin 10 millions d'euros cette année, voyez, 30 l'année prochaine, pour créer des mesures de prévention de la perte d'autonomie dans les EHPAD. On va améliorer la qualité de vie des soignants en améliorant leur formation et des plans de carrière qui permettent à des personnes qui rentrent en EHPAD comme aides-soignants par exemple, d'avoir des perspectives d'évolution de carrière, parce que c'est assez déprimant sinon de se dire qu'on va faire 40 ans dans le même poste dans un EHPAD. Donc il y a tout un tas de mesures sur lesquelles on a travaillé pour faire un plan d'urgence que j'ai annoncé il y a une quinzaine de jours et qui va couvrir les 2-3 ans qui viennent. Après, moi, j'ouvre un grand débat sociétal qui va être ouvert dès le mois de septembre pour se demander quel modèle de société on veut pour les personnes âgées à l'horizon 2030, parce que le nombre de personnes âgées va considérablement augmenter. Et dans ce débat, nous aurons également la question du financement. Quel financement? D'où vient-il? Pour évidemment d'abord améliorer la qualité de vie en EHPAD, mais aussi peut-être pour sortir du modèle tout EHPAD. Mmh. On peut imaginer des plateformes de services à la personne. Et donc, on va créer ce nouveau modèle de société dans un débat public qui aura lieu toute l'année qui vient avec une loi en 2019.
Non, mais ça va dans le sens d'un rapport récent du comité d'éthique qui se questionnait justement sur quelle place donner au vieillissement et de quelle façon est-ce qu'on peut accompagner ce vieillissement qui n'est pas systématiquement, effectivement, de passer par un EHPAD, mais encore faut-il donner les moyens après des accompagnements au domicile de la personne.
Absolument. Le Conseil national d'éthique fait un constat que je partage complètement dès mon arrivée, c'est qu'en fait, on a créé ce modèle d'EHPAD qui est quasiment le modèle unique. Alors que ça n'est souvent pas le choix des personnes d'y résider. Souvent, les familles sont obligées d'envoyer leurs personnes âgées parce que, à cause des difficultés à domicile. Et on voit bien que les personnes âgées, quand on les interroge, elles veulent d'autres modèles, des résidences seniors, des services à la personne. Et donc, on peut imaginer un modèle de société beaucoup plus inclusive. Certains pays, je pense par exemple aux Hollandais, ont fait des villages pour des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer complètement ouverts dans la ville, avec des soins qui les accompagnent. C'est un modèle totalement inclusif. Et là, nous parquons, entre guillemets, nos personnes âgées dans des EHPAD en dehors des villes. Je crois qu'on doit repenser le modèle complètement.
Il y en a un en construction à Dax.
Absolument.
Qui sera donc une sorte de pilote, on va
Absolument.
Dire, de ce
système-là. Je vais le regarder de très près.
Bonsoir Aline.
Bonsoir France Inter. Je vous félicite pour la qualité de vos émissions.
Merci Aline, allez-y.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour,
quelles dispositions pensez-vous prendre face à la crise due aux problèmes liés à la crise de l'évothyrox?
Avec d'autres questions là-dessus, tiens, j'en prends une au hasard sur le hashtag Telson. Que comptez-vous faire, Madame Buzyn, pour toutes les victimes de l'évothyrox, ceux qui n'arrivent pas à retrouver un cours normal de vie, même en changeant de formule?
Alors, aujourd'hui, le lévothyrox, peut-être pour rappeler quand même l'histoire, elle date, je crois, de 93 ou 94, date à laquelle l'agence de sécurité du médicament a demandé au laboratoire qui fabriquait le lévothyrox de changer sa formule pour la rendre plus stable. Donc la nouvelle formule est arrivée sur le marché 2-3 mois avant que j'arrive au ministère, et effectivement les effets secondaires se sont fait sentir dans le courant de l'été. J'ai vu arriver ce problème par les médias, et j'ai reçu les associations représentant les patients dans le mois d'août, et je leur ai promis que j'allais diversifier l'offre, parce que une des raisons pour lesquelles les gens étaient tellement en souffrance, c'est que il y avait eu un changement de formule, elles avaient été pas informés, les médecins très peu informés également.
Donc il y avait eu un retour de l'ancienne formule pour ceux qui le souhaitaient.
Alors, et surtout, elles ne pouvaient pas se rapatrier sur une autre formulation parce qu'il n'y en avait pas d'autre, il y avait le monopole. Donc la première chose que j'ai faite, c'est un, de faire rapatrier l'ancienne formule parce qu'il restait des stocks en Europe et notamment en Allemagne, et deux, de diversifier l'offre de façon à ce qu'il y ait au moins 5 médicaments différents pour que les gens trouvent la formule qui leur correspond le mieux. Alors, cette diversification de l'offre, elle a démarré progressivement à partir du mois d'octobre. À partir de janvier, il y avait 5 nouveaux médicaments. Malheureusement, l'ancien lévothyrox va arrêter d'être produit par la firme, et je n'ai pas les moyens d'obliger une firme pharmaceutique internationale à produire un produit qu'elle a décidé d'arrêter de produire. C'est comme si je demandais à Peugeot ou à Renault de fabriquer une voiture qu'ils ont cessé de fabriquer. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui peut obliger Renault ou Peugeot de fabriquer un ancien produit. Donc de la même façon qu'on ne peut pas le faire pour un industriel X, on ne peut pas le faire pour l'industrie du médicament aujourd'hui. Et donc, ce que je demande aux personnes, c'est de se faire aider par leur médecin pour trouver parmi l'offre actuelle des 5 médicaments qui sont partout utilisés dans le monde, de trouver le bon produit pour eux, parce que l'ancienne formule de lévothyrox ne sera plus produite, et je crois que les stocks vont s'arrêter d'ici la fin de l'année 2018.
Et quelles leçons on tire quand même de cette histoire? À quel moment on peut, alors effectivement, ne pas interférer sur le labo pour qu'il fasse une vieille formule, on est d'accord avec ça, j'imagine bien pourquoi vous ne pouvez pas le faire. En revanche, informer les patients mieux, écrire sur la boîte de quelle formule on parle, savoir à quel moment la formule ne sera plus disponible. Comment ça se fait que tout ça? Alors, on ne va pas revenir refaire l'histoire en se demandant pourquoi ça n'a pas été fait, mais est-ce qu'on est sûr que ça ne se reproduira plus aujourd'hui?
Alors, Dès que l'affaire est sortie, j'ai reçu les associations et surtout j'ai demandé un rapport à une représentante d'une association de patients, Madame Léo, et à un journaliste médecin, Gérald Kirzek, de me produire un rapport avec l'aide de l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur l'information des patients autour du médicament. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout est fait dans la réglementation pour que seuls les médecins et les pharmaciens soient informés par le laboratoire. Et en fait, on n'a aucun moyen au ministère ou l'agence du médicament d'informer directement les gens. Donc ce rapport est pratiquement fini, il va m'être remis et il fera l'objet évidemment de mesures pour améliorer l'information sur le médicament, probablement d'une amélioration de l'information sur le site internet du ministère, mais pas que ça. Il y a tout un tas de propositions qui vont être faites parce qu'on ne peut pas laisser les usagers et les patients complètement en dehors de ces questions. Ils ont besoin d'être informés en temps réel. Donc ce rapport est fini et les mesures seront prises dès cette année pour que ça ne se reproduise plus, bien entendu.
Et les questions cannabis, c'est Cachou qui la pose. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Merci. Alors il se trouve que je suis porte-parole du collectif d'information et de recherche cannabique, une association de cannabinophiles, mais également patient puisque je souffre d'un glaucome et je me soigne avec le chanvre. Mmh. Et ma question réside autour de l'engouement qu'il y a actuellement autour du CBD et du chanvre qu'on trouve légalement. Comment le gouvernement compte-t-il légiférer à partir du moment où l'on sait que chanvre et cannabis c'est exactement la même chose, la même plante, que le chanvre industriel ou le chanvre thérapeutique ou récréatif sont donc la même plante et que actuellement les 0,2% de THC que l'on a dans le chanvre industriel n'existe que parce qu'on procède à des protocoles d'analyse qui sont faits sur des plantes en train de mourir au sol.
Un spécialiste.
Ce que je veux dire, c'est que le cannabis actuellement, le chanvre qui pousse industriellement en France, est aux yeux de la loi un stupéfiant si on l'analyse en plein champ.
Oui.
Vous voyez, il y a un petit souci. Ça va être très très compliqué pour le gouvernement d'arriver à légiférer.
Donc, alors, de toute façon, merci Cachou pour la question, parce que des questions cannabis, il y en a beaucoup ce soir au 01 45 24 7000. Vous aviez dit, c'était chez nous d'ailleurs, Agnès Buzyn, qu'il fallait réfléchir. On va commencer avec le thérapeutique, le cannabis thérapeutique. Où on en est de cette réflexion? Est-ce qu'on va rattraper notre retard? Et alors, ça commence quand?
Donc, le cannabis thérapeutique, il y a déjà une formulation qui existe en comprimé. Elle est en cours de négociation pour le prix et donc en fait on peut avoir des extraits de cannabis sous forme de médicaments en gélules.
C'est très compliqué.
Il y a des médicaments qui existent sur le marché et le prix est en cours de négociation. Donc déjà, les personnes qui souffrent de spasticité par exemple pourront accéder à ce cannabis sous forme de gélules. Après, certains disent, notamment des médecins, que ces comprimés ne couvrent pas tous les types de douleurs ou tous les types de spasticité et qu'il faudrait pour certains malades pouvoir fumer. Donc moi, j'ai demandé à mes équipes, évidemment, de m'apporter l'analyse de la littérature sur ces sujets parce que on pourrait imaginer éventuellement que soit autorisé sur prescription médicale du cannabis thérapeutique. Par contre, je vais être claire. Le cannabis récréatif est interdit en France, c'est un stupéfiant et je souhaite qu'il le reste parce que ça crée de très gros dégâts, notamment chez les jeunes. Ça crée ce qu'on appelle des troubles cognitifs avec un défaut d'apprentissage à l'école, très clair. Et donc toutes les études, pour le coup, montrent que c'est toxique pour les jeunes et donc ça restera interdit par la loi. Et aujourd'hui, effectivement, on trouve dans certaines boutiques des cigarettes avec des très faibles taux de stupéfiants dedans à base de cannabis. Et en réalité, ces cigarettes...
Qui sont rentrées dans un trou de la loi, effectivement, coffee shops.
En fait, mais quelle est votre position?
Donc la loi,
en
fait, dit bien qu'on peut retrouver ces très faibles taux pour le cannabis industriel, c'est-à-dire le chanvre qui est utilisé pour faire des tissus par exemple, mais pas dans un produit fini. Or, les cigarettes qui sont vendues dans ces coffee shops sont en fait un produit fini, ils tombent sous le coup de la loi et dans la loi, on ne vend aucun produit à base de stupéfiants en France. Donc en réalité, ils n'ont pas le droit de vendre ces produits.
Donc vous allez les fermer?
Non, pas forcément fermer la boutique parce qu'ils ont le droit de vendre ce qu'ils veulent du moment que c'est permis, mais en tous les cas, moi je m'intéresse au produit qui est vendu dedans et donc ils n'ont pas le droit aujourd'hui de vendre ces cigarettes et donc on va y travailler avec les douanes, notamment et la DGCCRF pour faire des analyses, mais tous les produits à base de stupéfiants aujourd'hui sont interdits à la vente.
Mais est-ce
en
que c'est pas aussi l'une des raisons pour laquelle on est en retard sur le cannabis thérapeutique? On a trop souvent fait le lien entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. On se met à confondre l'un et l'autre, et ça se voit même y compris là dans les questions où l'un ne va pas sans l'autre, alors qu'on est quand même dans deux choses qui sont très différentes. Notre auditeur le faisait remarquer tout à l'heure. Il y a les produits à base de CBD, c'est une chose, et puis le THC, c'est autre chose. L'herbe qui fait rigoler, c'est le THC. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les médicaments.
C'est vrai, vous avez raison, parce que je crois qu'on a traité le sujet de façon assez idéologique et donc avec des conflits qu'on adore en France entre les pour et les contre, alors que effectivement, il faut poser les différents problèmes sur la table, ne pas tout confondre. On peut imaginer le développement de cannabis thérapeutique à base de cigarettes sur prescription médicale, comme on prescrit des médicaments, et ça, si les études montrent que c'est nécessaire pour certains malades, moi je ne suis pas opposée, parce que ce que je cherche, c'est à diminuer la souffrance des gens. Mais par contre, je veux que ce soit très clair, notamment pour nos adolescents et nos jeunes, le fait que le cannabis est interdit à la vente, que ce sera l'objet d'une amende à partir de 2019. Ça fera l'objet d'une amende pour ceux qui en consomment, parce que bizarrement, on ne peut pas lutter contre le tabac comme on lutte contre le tabagisme aujourd'hui et se dire que le cannabis n'est pas grave. Le cannabis, d'abord, c'est une cigarette. Ça a exactement la même toxicité qu'une cigarette de tabac. Donc, en termes de risque de cancer du poumon, c'est la même chose. Et en plus, ça entraîne des dégâts dans le cerveau de nos jeunes avec d'énormes troubles des apprentissages. Donc, voilà, ne mélangeons pas tout et n'en faisons pas un combat idéologique.
Aurélien, bonsoir.
Bonsoir. J'avais une question donc pour Madame la ministre de la Santé.
Allez-y,
bonjour.
Bonjour. Je suis papa d'une petite fille polyhandicapée handicapée à plus de 80% à cause du scandale de la dépakine. Mmh. Une étude est parue donc vendredi qui met depuis 1967 il y aurait 30 000 victimes de la dépakine. Ça corrobore les chiffres de l'association l'APESAT qui œuvre pour ce combat-là. Sachant que le laboratoire Sanofi a dénigré cette étude dans un communiqué, qu'il refuse de s'excuser ne serait-ce que ça auprès des familles, qu'il a été condamné par la cour d'appel d'Orléans, avec un fonds d'indemnisation qui a été mis en place par l'État en novembre 2016. Est-ce que l'État va enfin taper sur la table pour que Sanofi assume son rôle de producteur de produits, sachant que ça pourrait coûter plus de 30 milliards d'euros pour indemniser les victimes, puisque c'est les handicaps lourds?
Alors,
voilà ma question.
Merci, merci Aurélien, merci pour votre question. Agnès Buzyn.
Merci beaucoup. C'est vraiment une situation épouvantable. Je dois dire que j'ai vu cette étude avant qu'elle ne paraisse, bien entendu. J'ai souhaité la rendre publique très vite. C'est donc une étude qui a été faite sur les bases de données de l'assurance maladie et qui montre que les femmes qui ont pris de la dépakine, mais également d'autres antiépileptiques, ont des risques très importants d'avoir des enfants qui ont soit des malformations, soit des troubles du neurodéveloppement, une hyperactivité ou des troubles du spectre de l'autisme. Et c'est une étude qui montre que l'État veut faire toute la transparence sur cette affaire. C'est dramatique et j'imagine votre souffrance, monsieur. Ce qui compte pour moi et l'urgence, c'est que ces familles d'abord connaissent le risque et donc puissent se retourner vers l'ONIAM et puissent être indemnisés. Alors évidemment, ça ne guérira pas les enfants. Mais si déjà ça peut permettre une meilleure prise en charge, des accompagnements de qualité, une aide pour les parents, c'est déjà ça. Et donc l'urgence pour moi, c'est que toutes les familles concernées déposent un dossier à l'ONIAM, qui est l'Office d'indemnisation des victimes. Voilà, il y a suffisamment d'éléments scientifiques.
Comme ça avait été le cas pour le Mediator, par exemple?
Le Mediator dépendait aussi de l'ONIAM, mais clairement, je pense que ça concernait... Enfin, non, je vais dire une bêtise, je pensais que ça te concernait moins de malades, je ne sais pas. En fait, le problème de la dépakine, c'est que ça a concerné des gens sur une très longue période. Et que il est probable, en fait, qu'il y a maintenant des adultes sont nés dans les années 90 sous dépakine. Et donc, ceux-là, on les a pas dans le radar. Ces personnes qui sont en difficulté d'apprentissage ou qui ont des troubles psychiques, on les a pas repérés. Donc, il y a un problème lié à la durée d'exposition à ce médicament. L'autre chose que montre l'étude, c'est que la dépakine n'est pas le seul antiépileptique en cause. D'autres molécules semblent aussi donner des troubles, moins fréquents, mais quand même. Et donc, ça pose le problème de comment on traite les femmes qui ont une épilepsie. Et donc là, il faut clairement se rapprocher des médecins. l'urgence, c'est que monsieur et que les autres familles dans le cas, dans le même cas, soient indemnisés pour être aidés.
Mais alors, Sanofi.
Et Sanofi, c'est le travail de l'État. Ouais. Mais alors, négocier avec ça.
Le sens de la question d'Aurélien, c'était est-ce que l'État va faire payer Sanofi ? Est-ce que vous avez les moyens d'appuyer pour que Sanofi paye ?
On a évidemment les moyens, les discussions auront lieu. Je rappelle que ce qui a été décidé, c'est la première fois que c'est fait comme cela, c'est que plutôt que les familles se retournent vers l'industriel, l'État met en place un fonds pour accélérer les choses et que ça ne traîne pas.
Charge pour l'État d'aller chercher l'industriel après.
Et ensuite, c'est à l'État de se retourner vers les personnes en faute, évidemment.
Question, Daniel Messager.
Je voudrais revenir très brièvement sur l'hôpital, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit, on a parlé des urgences, mais l'hôpital plus globalement, les hospitaliers attendent un plan depuis un certain temps. Je crois que vous avez évoqué l'été, alors je ne sais pas quand c'est l'été, si c'est maintenant, début septembre. Enfin, c'est un plan qui est quand même assez attendu. Est-ce que vous quand même pouvez nous dire, il y a des chiffres importants qui circulent sur un plan d'économie de plus d'un milliard d'euros. Est-ce que vous allez effectivement retirer de l'argent à l'hôpital ? Est-ce que vous allez le répartir différemment ? Est-ce que cette tarification à l'activité que beaucoup maintenant souhaitent voir diminuer, au moins peut-être pas forcément disparaître, mais diminuer, qui pousse à faire des actes davantage et qui entraîne cette surconsommation de soins, quelles sont quand même les grandes orientations vous pourriez indiquer sur ce plan hôpital ? Parce que les soignants, on les entend régulièrement à l'antenne parler de leurs difficultés, parler de cette demande qui est faite en permanence de produire plus, mais ils ne sont pas accompagnés.
Je suis la première à avoir posé le constat. J'ai posé le constat dès mon arrivée, d'abord parce que j'ai passé 25 ans de ma vie à l'hôpital et que j'ai vu la dégradation progressive des conditions de travail ces dernières années et depuis le début des années 2000. Et puis j'ai vu la dérive progressive de ce qu'on appelle la tarification à l'activité qui poussait quelque part l'hôpital à être productif comme une entreprise. Or, il y a à l'hôpital évidemment besoin de travailler, il faut que ce soit productif dans le sens qu'il faut que les gens travaillent, mais l'hôpital c'est bien autre chose, c'est l'universalité de l'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille n'importe qui aux urgences, ça travaille 24 heures sur 24, ça fait de la recherche, de l'enseignement, ça forme les jeunes. Il y a une prise en charge humaine qui prend du temps et qui n'est pas valorisée. Quand vous passez du temps auprès d'un malade en soins palliatifs, quand vous faites des réunions de service autour d'un cas compliqué, tout ça n'est pas valorisé, or c'est du temps de soignant. Donc la première chose que j'ai dite, c'est qu'il faut réformer la tarification. Mais je me suis rendu compte aussi que l'hôpital n'était pas un objet à part dans le système de santé, que l'hôpital aujourd'hui souffrait aussi du manque d'organisation du reste du système. Et notamment, on l'a dit pour les urgences, l'absence de médecins, le fait que tout le monde débarque aux urgences. Il y a eu un doublement de l'activité en 15 ans. Et donc, en fait, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire une réforme de l'hôpital sans interroger plus généralement le système de santé. Et donc la transformation qu'on est en train de mener est une transformation de l'ensemble du système de santé qui a été pensée dans les années 50-60 pour des gens qui avaient des maladies aiguës, qui vivaient pas vieux, qui avaient des accidents du travail, et qui n'est pas du tout un système adapté pour des gens très âgés avec des maladies chroniques et des maladies complexes. Donc c'est un système cloisonné, le financement de la ville est complètement différent du financement de l'hôpital, les gens ne se parlent pas. Et donc la transformation aura lieu, elle sera annoncée dans le courant de l'été, je ne donne pas de date parce que ça dépend un peu des agendas, évidemment, des uns et des autres, mais nous travaillons de façon acharnée pour proposer un nouveau modèle qui, évidemment, interrogera nos organisations au sens large et la tarification.
Et pendant que vous buvez un peu d'eau, Agnès Buzyn, on va écouter Nicole. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Pardon.
Dites-moi, c'est contagieux.
C'est contagieux.
Alors, je voudrais savoir quel a été le protocole de l'étude sur laquelle se basent les médias pour prétendre que l'homéopathie n'aurait qu'un effet placebo, sachant que la prescription en médecine homéopathique est individualisée et n'a pas pour seul critère les symptômes. Et j'ai une autre question, mais qui n'a pas de rapport avec l'homéopathie. Est-ce que je la pose maintenant ?
Non.
D'accord.
Non. Et alors, un peu chacun son tour, mais on va voir. Restez avec nous, évidemment, Nicole. Alors, l'homéopathie, d'abord, beaucoup de questions là aussi. D'où sort ce fameux rapport, Agnès Buzyn, celui qui dit qu'effectivement, il n'y a pas d'effet, il n'y a qu'un effet placebo, on va dire, dans l'homéopathie. Qu'est-ce qu'on fait de ça, surtout ?
En fait, je vais pas qualifier l'effet de l'homéopathie. Je vais simplement vous dire le raisonnement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que la sécurité sociale, c'est notre bien commun, c'est l'argent de tous les Français, et que ça repose sur un principe en ce qui concerne l'assurance maladie, c'est que tout ce qui est remboursé par la sécurité sociale est évalué comme étant efficace. Et donc, ce que j'ai simplement dit au sujet de l'homéopathie, mais comme tous les médicaments, c'est que pour être remboursé, il faut montrer son efficacité. L'évaluation, elle est faite par une autorité indépendante qu'on appelle la Haute Autorité de Santé. Tous les pays ont mis en place des agences d'évaluation des médicaments pour savoir ce qui est pris en charge par la solidarité nationale ou pas. Parce qu'après tout, on pourrait décider que voilà, on prend tout en charge. Non, en fait, on ne prend en charge que ce qui est prouvé scientifiquement. Et j'ai simplement dit que à l'avenir, il faudrait peut-être s'interroger sur le fait que l'homéopathie mériterait d'être évaluée comme tous les autres médicaments, ce qu'elle n'a jamais été. Elle est remboursée à 30% aujourd'hui sans en avoir jamais été évaluée par la Haute Autorité de Santé.
Ce que disent les tenants de l'homéopathie, c'est placebo veut dire aussi efficace parfois, en fait. Un effet placebo peut aussi être un effet efficace.
C'est pour ça que je préfère dire que je souhaite qu'elle soit évaluée, point barre.
Mais on n'est pas obligé de rembourser du placebo pour autant.
Bah,
alors,
justement,
question sur les médicaments. Il y a eu un certain mouvement d'émotions chez les personnes qui prennent des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, puisque pour le coup, la Haute Autorité de Santé évaluée a décrété que ce n'était pas un service médical rendu suffisant et vous avez arrêté le remboursement des médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Donc d'un côté, on a l'homéopathie qui continue à être remboursée, peut-être pas beaucoup, mais qui continue à l'être, dont on n'est pas sûr de l'efficacité, c'est ce que vous venez de dire. De l'autre côté, effectivement, là, on met un coup près sur les médicaments anti-Alzheimer. Il y a peut-être un petit peu de poids de mesure.
Non, c'est exactement la même procédure. En fait, l'histoire des anti-Alzheimer, elle date de 2011, où ils ont été une première fois évalués par la Haute Autorité de Santé avec un très grand doute sur leur utilité. Mais comme nous n'avions rien à proposer aux patients, la Haute Autorité de Santé, quelque part, a dit, écoutez, autorisons pendant 5 ans un remboursement et demandons aux firmes qui fabriquent ces médicaments d'apporter plus de preuves. Et puis, une deuxième évaluation a eu lieu en 2016. À l'époque, c'était Marisol Touraine qui était ministre, qui cette fois-ci a tranché parce qu'il n'y avait pas de nouvelle étude qui montrait un bénéfice. Et par contre, il y avait des études en vie réelle sur les malades qui montraient qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires, des chutes, des hospitalisations. Et donc, la Haute Autorité de Santé a été ferme en disant « ça n'apporte pas de service médical rendu, il faut dérembourser ». Ce qu'a demandé Marisol Touraine, c'est que la Haute Autorité de Santé produise un guide de prise en charge pour passer d'une prise en charge médicamenteuse vers une prise en charge comportementale. Et c'est ce que nous allons mettre en œuvre, c'est-à-dire que l'argent de ces médicaments ira vers les centres mémoire pour mieux prendre en charge les personnes. L'idée n'est pas de dérembourser pour faire des économies, mais pour bien être au service des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer.
Voilà, et pardon Nicole, mais on ne fera pas la deuxième partie de votre question. Juste, c'est la dernière, je voudrais qu'on l'entende David rapidement. Pardonnez-moi David, on vous écoute.
Oui, bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Je vous appelle, je suis membre fondateur de l'association Prévention Vaccin. J'aimerais vous réentendre ici, j'aimerais réentendre votre engagement à assumer complètement les conséquences de la vaccination obligatoire. À reconnaître enfin toutes les victimes des accidents post-vaccinaux, à faire en sorte que l'ONIAM indemnise toutes ces victimes d'accidents post-vaccinaux, puisque ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, sachant que l'administration de plusieurs vaccins combinés en une seule séance est très problématique en termes d'effets secondaires. J'aimerais vous entendre sur ce sujet, Madame la Ministre.
Alors,
merci.
Rapidement, si vous le voulez bien, Madame Buzyn.
Je rappelle à Monsieur que le calendrier vaccinal que nous avons rendu obligatoire était déjà le calendrier vaccinal en vigueur auquel se soumettaient 70 à 80% des enfants français. Et donc, c'est un calendrier vaccinal n'entraîne pas d'effets secondaires notables, puisqu'il est fait depuis des années sur des centaines de milliers d'enfants français. Et donc la vaccination obligatoire, elle permet simplement de passer de 8 enfants sur 10 vaccinés à 9 enfants sur 10 vaccinés. Quand il arrive un effet secondaire, ce qui est toujours possible parce que c'est un médicament, l'ONIAM s'engage à évidemment indemniser les personnes qui souffrent d'un effet secondaire. Ça fait partie de ses missions. Ce sont des experts indépendants qui évaluent les dossiers et le lien avec la vaccination.
Agnès Buzyn, il nous reste très peu de temps. Il nous reste même quasiment pas de temps. Je peux pas vous laisser sans cette question. Est-ce que la polémique de l'INSERM est terminée selon vous? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Votre mari, donc le président de l'INSERM, et le ministère de la Santé, qui n'est plus, depuis que vous êtes là, effectivement, sous la tutelle de l'INSERM n'est plus sous la tutelle du ministère de la Santé, pardon, mais votre mari est toujours là. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que vraiment le débat est classé pour vous?
Écoutez, oui, je ne m'occupe pas de l'INSERM. Je suis en déport par un décret depuis J2 de mon arrivée.
En fait, le déport suffit,
c'est ça? Mais oui, parce qu'en fait, toutes les questions relatives à l'INSERM sont gérées par Matignon. Donc, a priori, c'est toujours le cabinet du Premier ministre qui prend les décisions avec la ministre de la Recherche, qui est sa tutelle principale, je le dis. Donc, il y a deux ministres.
Il y avait deux tutelles, il n'y en a plus qu'une, effectivement, puisqu'on
a enlevé la. Oui, et Matignon. Et donc, moi, je.
Voilà, on n'en parlait jamais, même pas à la maison.
Non.
Agnès Buzyn au téléphone sonne. Merci beaucoup. Vous étiez extrêmement nombreux à téléphoner. C'est pour ça qu'on est en retard. Merci beaucoup.